bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, le coup de canif iranien, un désengagement de l'accord sur le nucléaire annoncé tout à l'heure à Téhéran, un an après le retrait américain. On verra ce que ça veut dire, alors que les tensions entre les deux pays prennent une tournure militaire et que l'Iran est à bout de souffle économiquement. Emmanuel Macron sur tous les fronts, il lui faut désamorcer la crise sociale en France et faire gagner son camp aux européennes. Il est allé galvaniser la liste LREM hier soir. Des Macron compatibles qui tournent Kazakh, gros plan dans ce journal, sur ces maires de droite qui sont en train de revenir dans le giron Les Républicains. Quand un neurologue redécouvre Molière, c'est insolite. On verra ce que ça donne dans 20 minutes, Nicolas.
Et ça donne déjà un livre aux éditions Odile Jacob intitulé « Nous sommes tous des femmes savantes ». Drôle de livre, écrit par Lionel Nakache, notre invité dans le grand entretien de la matinale. Intervenez dès maintenant au 01 45 24 7000.
À la une également, l'intelligence artificielle au chevet des bébés prématurés. L'impensable remontada de Liverpool hier soir en finale de la Ligue des Champions après avoir battu le Barça, et du ciné en BD Sergio Leone, premier tome d'une série des éditions Glénat.
France Inter.
C'était un accord de paix et de prospérité. L'Iran, grand Satan pour les États-Unis de George Bush, promettait de limiter drastiquement son programme nucléaire et de renoncer à l'arme atomique en échange d'une levée des sanctions internationales. C'était en 2015, Barack Obama avait signé l'accord, dénoncé par son successeur il y a un an, jour pour jour. Depuis, les sanctions économiques ont été rétablies, les investisseurs étrangers ont quitté l'Iran, le chômage a explosé comme les prix. Reportage dans un pays exsangue, signé Siavosh Ghazi à Téhéran.
Sous l'effet des sanctions américaines imposées progressivement depuis un an, le rial iranien a perdu plus de 60% de sa valeur et l'inflation dépasse désormais les 50%. Pour une majorité d'Iraniens, la vie devient tous les jours plus difficile, comme l'affirme Hossein, un chauffeur de taxi de 43 ans, entouré de ses collègues.
70 à 80% des gens vivent sous une pression très forte. Les prix des produits de consommation courante ont augmenté d'au moins 100%. Mais certains produits ont même augmenté de 400%. C'est mieux qu'on fasse directement la guerre. Soit on meurt, soit...
Hossein ne finit pas sa phrase. Comme beaucoup d'Iraniens, il craint une aggravation de la situation économique avec les nouvelles sanctions américaines. L'espoir créé par l'accord nucléaire de 2015 a cédé la place au désespoir. Et beaucoup accusent les États-Unis comme Ali, un homme d'une cinquantaine d'années.
Que les États-Unis soient honnis pour ce qu'ils font avec notre peuple. Que veulent-ils? On ne peut plus rien acheter. Ce sont les petites gens qui trinquent. Ça ne peut pas être pire que ça pour nous.
Face aux pressions américaines, le pouvoir iranien ne semble pas vouloir céder et prône la résistance. Le président Rouhani pourrait même annoncer la reprise d'une partie des activités nucléaires en représailles aux sanctions américaines. Terence Siavosh Ghazi, RFI pour France Inter.
Et c'est effectivement ce qui s'est passé ce matin. L'Iran a décidé de cesser d'appliquer certains engagements de l'accord sur le nucléaire. Décision officiellement annoncée tout à l'heure. Bonjour Christian Chéneau.
Bonjour.
Est-ce que ça veut dire que les Iraniens, à leur tour, font une croix sur cet accord?
Non, Florence. Téhéran ne se retire pas complètement de l'accord de Vienne, mais l'Iran arrête d'appliquer certaines restrictions sur la quantité de ses stocks d'uranium et d'eau lourde, dont le plafond avait été fixé respectivement à 300 kilos et 1300 tonnes. Dans une lettre aux pays encore partie prenante de l'accord, en l'occurrence la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, le président Rouhani notifie que ces matières nucléaires ne seraient plus transférées à l'étranger comme le prévoyait l'accord de 2015. Par ailleurs, l'Iran donne un délai de 60 jours à ces pays signataires pour qu'ils respectent leurs engagements, notamment en levant les sanctions dans le domaine bancaire et pétrolier, car ces mesures qui n'ont pas été supprimées malgré le respect par l'Iran de l'accord nucléaire jusqu'ici font très mal à l'économie iranienne. Tous les investissements étrangers ont été annulés et Téhéran ne peut plus exporter son pétrole qui est sa principale ressource financière.
Alors Christian, cette décision elle est annoncée dans un contexte de grande tension entre l'Iran et les États-Unis. Un porte-avions et des bombardiers américains sont en route pour le Proche-Orient pour parer à des attaques imminentes de Téhéran. C'est le vocabulaire employé à Washington.
En fait, les États-Unis soupçonnent les Iraniens d'avoir transféré des missiles courte portée sur des vedettes rapides qui sillonnent le golfe Persique, des bateaux qui pourraient s'en prendre à la flotte américaine stationnée dans la zone. Washington fait état d'une menace iranienne crédible. Hier, le secrétaire d'État Mike Pompeo était en visite surprise à Bagdad pour s'assurer que l'Irak, voisin de l'Iran, garantisse les intérêts militaires américains dans le pays. Donc oui, la tension est montée d'un cran. Les risques d'accrochage militaire se sont fortement accrus dans la région et ce raidissement iranien sur le dossier nucléaire montre que Téhéran n'a pas l'intention de rester les bras croisés face aux pressions américaines de plus en plus intenses.
Christian Chesneau, spécialiste de la région à la rédaction de France Inter. En France, que contiendront les soutes du cargo saoudien qui appareillera dans le port du Havre, qui accostera aujourd'hui selon le site d'investigation Disclose, avec qui France Inter a révélé l'utilisation d'armes françaises dans la guerre au Yémen. Ce cargo sera chargé dans la journée de 8 canons français César. Destination finale, le port de Jeddah en Arabie Saoudite. Premier acteur du conflit yéménite. Interpellé par un député communiste hier à l'Assemblée, la secrétaire d'État aux armées a esquivé la question, rappelant que les armes françaises ne sont pas utilisées sur la ligne de front.
Il est 8h06, Florence. La baisse des impôts, pour qui l'an prochain?
Annoncé par Emmanuel Macron avec ce chiffre de 5 milliards d'euros, son ministre Gérald Darmanin dit un peu plus ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France. La baisse concernera 95% des contribuables qui paient l'impôt sur le revenu pour une économie, dit-il, de 300 euros en moyenne. Et pour compenser, pourquoi ne pas déménager des services de l'État hors de Paris, propose le ministre, qui veut muter la direction générale de la finance publique et ses 3000 agents en zone rurale, ce qui permettrait selon lui de faire des économies sur l'immobilier. Et pendant que Bercy fait son concours Lépine, il y a des élections à gagner pour la majorité. Pour cela, le grand patron est venu soutenir ses troupes hier soir à Paris. Emmanuel Macron, invité surprise d'un dîner des colistiers LREM, candidat aux européennes. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Le président au charbon, à moins de 3 semaines des élections, pour soutenir une liste qui semble patiner.
Si vous aviez encore un micro-doute infime sur la tête de liste, eh bien elle s'appelle Emmanuel Macron. Le président trépignait à l'idée d'entrer dans cette campagne. Il l'a fait à sa façon pour remotiver ses troupes, reconnaît un participant. Le message du président à sa liste Renaissance, a-t-il confié en privé, c'est « N'ayez pas peur et donnez envie » avant de décliner les 3 axes du programme, climat, frontières, modèle économique et social, des questions sous-investies selon lui. Preuve supplémentaire que la tête de liste Nathalie Loiseau inquiète, sa campagne ne prend pas et surtout elle multiplie les écarts de langage. Dernière en date, dans une interview à l'Obs, la tête de liste de Renaissance promet un blitzkrieg positif pour relancer sa campagne, référence surprenante au concept de guerre éclair inventé par l'Allemagne nazie, commentaire d'un ténor de la majorité. Au moins, on sait ce qu'elle a retenu de ses années à l'UED avec ses amis d'extrême droite. Hier, Emmanuel Macron est resté invisible, mais ça ne devrait pas durer. Il avait annoncé vouloir faire un meeting. Celui de Strasbourg samedi avait été un temps envisagé avant que l'Élysée ne change d'avis. Il s'affichera déjà sur les professions de foi qui vont arriver bientôt dans les boîtes aux lettres. En haut, une photo des colistiers. En bas, sa photo à lui et quelques mots écrits de sa main. Le président entre donc en campagne, conscient qu'en cas d'échec de la liste Renaissance, eh bien il devra assumer tout seul.
Cyril Graziani du service politique de France Inter. Et à droite, tiens, que sont devenus les Macron compatibles? Ces maires qui s'étaient éloignés de leur maison LR, est-ce l'effet Bellamy ou celui de la crise qui secoue le mandat du président Élodie Forêt? Ils sont nombreux à faire marche arrière et à rentrer au bercail.
Les critiques étaient pourtant vives, encore récemment, contre François-Xavier Bellamy.
Quelqu'un d'extrêmement conservateur, quelqu'un qui a des positions que je ne partage pas du tout, à la fois sur l'IVG, sur la PMA.
Mais aujourd'hui, le maire de Nice, Christian Estrosi que l'on vient d'entendre, Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse, ou Arnaud Robinet, maire de Reims, tous soutiennent la liste LR. La seule avec l'UDI à parler d'Europe, dit Arnaud Robinet, très déçu par la campagne de La République En Marche.
Le seul projet que j'ai entendu de la bouche de Madame Loiseau, c'est « je suis là pour faire barrage à l'extrême droite ». Il y a aussi un point important, c'est qu'aujourd'hui, nous ne savons pas où vont siéger les députés issus de la liste LRM.
Arnaud Robinet qui salue aussi la fin du rétrécissement de son parti quand en face, chez LREM, on peine finalement à s'élargir. C'est la thèse de l'ex-LR Dominique Bussereau. La majorité n'aurait pas assez tendu la main aux élus de centre-droit.
Ce petit monde a fonctionné en vase clos. À aucun moment moment, les mains qui ont été tendues ont été saisies. Et quand on arrive à une période électorale, on paye malheureusement le prix.
L'entourage de Laurent Wauquiez, lui, se frotte les mains, y voyant un échec majeur de la stratégie présidentielle, notamment pour les municipales, car ces maires Macron compatibles devaient être les atouts d'un parti en manque d'ancrage. Aujourd'hui, les alliances semblent compromises.
Le preneur d'otages de Blagnac a été interpellé peu avant minuit hier soir, retranché dans un PMU. Il avait auparavant libéré les quatre femmes qu'il retenait depuis le milieu de l'après-midi. Le jeune homme de 17 ans était connu pour des faits de violence. Il était armé. Ses motivations n'ont pas été éclaircies. Des erreurs de pilotage pour expliquer l'atterrissage en urgence et l'embrasement d'un avion russe à l'aéroport de Moscou dimanche soir. C'est la thèse privilégiée par les enquêteurs. L'accident a fait 41 morts. Et puis toujours à l'étranger, Alexis Tsipras desserre l'étau sur la Grèce. Le Premier ministre annonce des baisses d'impôts et le rétablissement d'une allocation pour les petites retraites. Il importe maintenant que les sacrifices qu'ont fait les Grecs soient récompensés, a déclaré Tsipras. Ces perspectives sont immenses, tout juste défrichées. On s'intéresse ce matin à l'intelligence artificielle au service de la vie, au chevet des bébés prématurés en l'occurrence. Un algorithme vient de prouver son efficacité pour prévoir les infections auxquelles ils sont sujets grâce, Daniel Messager, aux bases de données des nouveau-nés hospitalisés dans 6 hôpitaux du Grand Ouest.
Point de départ, le recueil de données de santé de 400 bébés dès l'âge de 3 jours, rythme respiratoire, cardiaque. Parmi eux, une trentaine étaient victimes d'infections. Leurs paramètres différents permettent d'établir des comparaisons. L'intelligence artificielle stocke, analyse et peut ainsi détecter une infection entre 6 heures et 2 jours avant qu'elle n'apparaisse chez l'enfant. Le docteur Patrick Pladis, chef du service de pédiatrie du CHU de Rennes, a coordonné le système.
Sur l'écran, il apparaît simplement un indice par individu qui va passer du vert au rouge, si vous voulez, ou qui va monter de 0 à 100. Ça veut dire qu'on est dans une période à haut risque d'infection. On donne cette information au médecin pour qu'il puisse intervenir tôt. Les grands prématurés, ils ont une mauvaise défense par rapport aux infections. Un grand prématuré, il y a 10 à 20% qui vont contracter une infection à l'hôpital. Certains peuvent en mourir. Le travail du néonatologiste, c'est d'être le plus précoce possible dans ce diagnostic pour limiter à la fois la mortalité et limiter les séquelles.
Car chaque heure compte chez ces tout petits très fragiles. Les médecins veulent aujourd'hui étudier 700 bébés pour bénéficier d'un indice de risque d'infection encore plus précis.
Daniel Messager, décidément, rien n'est jamais écrit dans le football. Pour preuve, la remontée fantastique de Liverpool hier soir en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est eux qui disputeront la Coupe et non pas Barcelone, battu 4-0 sur la pelouse anglaise. Alors que les Espagnols s'étaient imposés 3-0 en match aller, tout le monde, Xavier Monferrand, tout le monde se pince pour y croire depuis hier soir.
Hein. Ouais Florence, personne ne misait sur eux, d'où la folie au stade d'Anfield hier soir. Comment remonter les spécialistes de la remontada, Florence? Ce serait presque un sacrilège. Les Reds de Liverpool donnés perdants, déjà éliminés après leur défaite à Barcelone, vous l'avez dit. C'était plié, c'était fini. Ils n'avaient qu'à laisser filer le Barça en finale. Mais non, Liverpool ne lâche jamais rien. Jamais. Et ce qui paraissait impossible s'est produit. Les Reds sont imposés 4-0 et iront donc une nouvelle fois en finale. Liverpool plus réaliste, plus pressant, plus quoi. Les Reds ont réalisé un très grand match, d'où la fierté de leur entraîneur Jürgen Klopp.
Ce qui a rendu cet exploit possible, c'est que mes joueurs ont un mental de géant. C'est incroyable après la saison qu'on a jouée, tous ces matchs, les blessures qui nous touchent à ce moment de la saison. Aller sur le terrain et réaliser une telle performance, ouais, c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit ou si ça peut se reproduire, mais les garçons l'ont fait, c'est brillant.
Le héros du match n'est pas le joueur le plus connu, la plus grande star, hein, ce n'est pas le pharaon Mohamed Salah. Non, il s'appelle Divock Origi. Divock qui ? Il est belge. C'est un ancien joueur de Lille, c'est lui qui a ouvert le score dès la 7e minute, lui aussi et surtout qui a fait tout basculer en inscrivant ce 4e but.
C'est incroyable. Quand tu vois le match, quand tu gagnes 4-0 contre le Barça, c'est quelque chose que on savait que ça allait dur, mais les émotions, le match, ça fait que c'était une soirée incroyable. On se bat pour chaque ballon. C'est la mentalité qui a fait la différence.
Bon, allez, va s'en souvenir longtemps, Divock Origi, le héros du soir sur BFM. Liverpool, donc premier qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, connaîtra l'adversaire des Reds ce soir. Avantage à l'Ajax Amsterdam, vainqueur 1-0 à Tottenham au match aller. Et puis franchement, Florence, Ajax, Liverpool. Ça aurait un peu de l'allure.
Ça serait
une belle affiche vintage. Très 70s.
Très bien. Merci Xavier Monferrand. Le regard fixe de Clint Eastwood, maintenant la main à portée de Colt. Vous avez reconnu le cinéma de Sergio Leone. Et si le cinéma c'est bien à la radio, comme on dit chez nos amis Christine Masson et Laurent Delmas le samedi matin dans On aura tout vu, le cinéma c'est bien aussi en BD. Ce que se proposent de faire les éditions Glénat avec une nouvelle collection, 9,5 sur l'histoire du cinéma. Premier volume, Sergio Leone donc, sa vie, son œuvre, Mathieu Message.
Mélodie iconique de Morricone associée désormais à l'œuvre de Sergio Leone. Si les films du cinéaste italien sont devenus populaires, peu connaissent son histoire. Noël Simsolo était son ami, il est le scénariste de l'album qui lui est consacré, la BD qui était aussi une passion pour Leone.
La bande dessinée d'une part et deuxièmement le cinéma, car son père était un grand cinéaste du muet qui avait été chassé du cinéma par Mussolini, l'avait beaucoup marqué, c'était un homme d'image et de son. Et en fait je pense qu'il a été formé par le cinéma muet, par la bande dessinée, par ces choses-là, et qu'en effet il avait le cinéma dans sa tête et dans le sang.
Cette bande dessinée retrace les étapes de la vie de Sergio Leone, son enfance en Italie, ses rêves de cinéma, ses rencontres avec Eastwood, Cardinal ou De Niro. Le tout en noir et blanc, une manière d'inscrire la légende sur le papier.
Les raisons des choix des acteurs et des réalisateurs choisis sont des gens qui ont eu un destin. Si on prend n'importe quel acteur ou réalisateur qui a eu une vie très très simple et tout, qui s'est levé le matin, qui a pris son petit déjeuner, qui allait sur le plateau, moteur en coupe, bon, je vois pas tellement l'intérêt. Mais dans le cas de Leone, il y avait quand même l'histoire du fascisme, il y avait l'histoire, disons, de la naissance du western italien. D'un côté de Ventura, c'est encore plus fort, parce que Ventura, c'est quelqu'un qui voulait pas être comédien.
Car la collection aborde d'autres personnalités du 7e art, un album sur Lino Ventura est déjà disponible et l'an prochain, ce sera au tour de Truffaut, Hitchcock ou encore Patrick Devers.
Tu vois, Nicolas, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé.
Ouais, et ceux qui ont une horloge.
Et ceux qui creusent.
Il est 8h17, Florence Paracuelos. Oui, moi je creuse, moi je rame là. Merci Florence Paracuelos.